Bonjour, c'est Madame Arthur.
Vous écoutez Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est le bordel. Je fais trop de choses, mes journées sont trop courtes. En consultant rapidement le tableau de programmation, j'ai cru que notre invité était Michalak, alors que c'est Michalik. Et je me suis donc plongé direct dans le monde de l'Ovalie, ses valeurs de fraternité, son top 14, ses troisième mi-temps, ses ballons suppos, etc., etc. Et j'ai perdu un temps précieux avant de réaliser mon erreur. Il se trouve qu'il s'agit donc en réalité d'Alexis Michalik, dont le nom brille et claque au frontispice des théâtres où il triomphe depuis 3 ans avec Edmond, récompensé par 5 Molières et surtout applaudi par des dizaines de milliers de spectateurs. Alexis Michalik se lance dans le roman et nous affirmons qu'il ira loin. Loin étant par ailleurs le titre de son premier roman. Un roman dont, contrairement à celui de Tolstoï, on ne dira pas qu'il est guère épais puisqu'il fait 642 pages, pleines de rebondissements rocambolesques, si habilement agencées qu'elles interdisent au lecteur de lâcher le livre. Opération de toute façon vivement déconseillée quand on sait que l'objet pèse quand même dans les 800 grammes. Michalik transforme-t-il en littérature l'essai que Michalak a fait passer avec une si insolente facilité sur les terrains de rugby? Voyez, je retombe toujours sur mes pattes. Voilà une des questions que nous allons poser au porteur d'histoire hors pair qui nous rend visite aujourd'hui. Alexis Michalik est l'invité de Pop-Pop-Pop.
France Inter. Pop-Pop-Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour Antoine Decaune.
Mm-hmm. À mes côtés, Charline, alors non pas von Hennecker, hein, mais Roux.
Bonjour, c'est ça, c'est bien mon nom, Antoine. Bonjour, bonjour Alexis.
Comme gouré jusqu'au bout. Avec vous, Alexis Michalik, nous allons donc nous intéresser de près à Loin, votre premier roman. Venu également de Pop-Pop-Pop. La première série d'horreur française sur Netflix, ça s'appelle Marianne et on en parle tout à l'heure avec son réalisateur Samuel et Victoire Dubois, une des comédiennes. Mais avant ça, ici, il existe une question préliminaire. Une question qui fait peur. Une question qui fait très peur. Une question qui fait très très peur et cette question c'est... Alexis Michalik, pour vous c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête... J'ai eu des réponses michalikesques, michalaviques, edmontisantes, voire cyraniqueuses. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un autre homme de théâtre, pas comme les autres, Philippe Cobert.
Je peux pas dire Jane Vincent, tout ça, d'abord c'est le rock. Et pour moi, le rock, c'est Johnny, et c'est Eddie Mitchell, et c'est... Alors disons, c'est Procolarum. Winter Shadow of Pell. Voilà, l'Angleterre, 15 ans, les petites anglaises.
L'Angleterre, qu'elles ont les petites anglaises.
What?
Bon. Et pour vous, Alexis Michalik?
Moi, je dirais les Beatles, Michael Jackson, Madonna et Beyoncé.
Ah oui, musique.
Ouais.
Donc ce n'est que de la,
ce
de la
musique. Ce n'est que de la musique.
C'est vrai.
Ouais. Pour moi, la pop culture, ça n'évoque que la musique.
Bah, c'est-à-dire pas du tout les séries, la fiction.
Non, pour moi, c'est pas de la pop. Vraiment, la pop, c'est purement musical.
Ok.
Je sais comme ça, c'est que vous me demandez ce que ça m'évoque. Ça m'évoque la musique, ça m'évoque un son. Et le roi de la pop, bah, c'est Michael. Mm-hmm. Hein, moi, quand j'ai grandi avec Michael, c'était le roi de la pop. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est Beyoncé.
C'était, hélas.
C'était.
Car oui, Michael,
quand j'étais enfant. Eh oui, absolument.
Quand vous étiez enfant, vous aussi.
Oui. Absolument.
Okay. Pouvez-vous vous empêcher?
Pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là là!
Allez, ça reboot, c'est reparti. Il y a un bug dans le système. Il faut relancer la machine.
Je suis refasé. La pop, la culture et la pop culture, on en va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le son de Young Thug et Lazy Uzi Vert. Et le morceau, c'est What's the Move? You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond, keep calm. Okay. All you do is point at what you want. Crystal cut, panels in town. $35,000 for a dub. Nigga try to buy the cash cards. Purse Miller brands with the walls. $35,000 for a dub. You make it twerk for me. You get a purse for me. $80,000 for a burger. You get a purse for free. I make it work for me. Copy and burst for me. Turn to a B.I.O.B. I make it work for me. You walk back, oh no, no. That nigga drop it and bop it and break it on my nose. I make her shut up and suck it, she fucking at my shows. I make her shut up, she fucking, she sucking at my shows. Drip, drip, no
shoes and my sneaker won't trip. My jeans ain't so tight they don't fit. Still walk around with a stick on my hip. VVS diamonds right behind my lip. Down wall with lefty 50 on my wrist. Diamonds so cold on my neck it got me sick. Rob Simmons mix it up with the Rick. Flexing on these haters, oops I mean my bad. Made it from the soil, made it from the wrecks. Richer than your first, richer than your last. LUV, you know I got the sweat. Pop a rubber band, pop another Zan. I groove around, party back my head. I'm seeing double looking through my lens. Tell me what you want, I just want your friend.
You just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond key, come. Okay. All you do is point at what you want. Point it up. Crystal cut, panels and chums. Oh, come on. Better $5 for a dog. Nigga try to buy the cash cause. Person Miller brands with the walls. Better $5 for a dog. You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 off for a burger. You get a purse for free. I make it worse for me. Copy and burst for me. Turn to a D.I.O.B. I make it worse for me. Drop it and pop it and break it on my nose. I make her shut up and suck and she fucking at my shows. I make her shut up, she fucking, she sucking at my shows. Diamonds, they drill down my wrist. Leg it, fuck out the skits. Left wrist sitting on the brick. Left wrist, bitch, have it lie like a pig. Fish part K for the shit. Part K, grab an AK for the rest. Put gorilla, wrap it, babe on the bitch. Wrap it, babe, put your car, cave on the bitch. Bitch, we live in state, state on the bitch. We never ever play with a bitch. Do everything the same on a bitch. We only pick the brains of a bitch. I throw the big B's on a bitch. I got a few C's on a bitch. I'm in another lead on a bitch. My diamond back ski on a bitch.
What's the move? I'm trying to iron you.
Oh, yeah.
I was trying to spine on you. Yeah. To the pain mines too.
Yeah.
Make it rain on you. It was hard to maintain too. Ooh, I was playing games with you, like you couldn't play games too.
Hey. Okay, you just gotta tell me what you want. Love a ton, diamond key, come.
Okay.
All you do is point at what you want.
Point it out,
crystal cut, panels and chums.
Oh, yeah.
$35 for a dog. Nigga try to buy the cash cause. Person Miller brands with the walls. $35 for a dog.
You make it twerk for me. You get a purse for me. $80 not for a burger. You get a purse for free.
Drop it and pop it and break it on my nose. I make her shut up and suck and she fucking at my shows. I make her shut up and she fucking at my shows.
What's the move, Young Thug and Lil Uzi Vert? Ça va, Charline, comme
ouais,
ça?
Oui, très bien. Je suis ravie, vraiment.
Okay, bien. Alors, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un auteur qui quitte momentanément les planches pour s'installer en librairie. Alors oui, nous allons faire son portrait. Son portrait, c'est votre portrait, Alexis, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé vous.
Ah, c'est une petite variation.
Oui,
j'aime bien, c'est pas mal. Aujourd'hui, un invité ni rugbyman ni pâtissier, comme ça on les aura tous faits. Alors je sais pas comment il cuisine, mais en matière de sport, c'est le roller qui aurait plutôt ses faveurs. Il l'a même enseigné, sans doute de là qu'il tient sa rapidité et un sens de l'équilibre qui lui aura permis de faire en à peine 20 ans ce que certains en toute une vie n'auraient ni le temps ni le talent d'accomplir. À 27 ans, l'âge où certains meurent, lui revisite Shakespeare avec la mégère à peu près apprivoisée et Régie. Quand il passe le cap de la trentaine, il écrit et met en scène Le Porteur d'Histoire, puis Le Cercle des Illusionnistes qui lui vaudront le Molière de l'auteur francophone vivant, c'est une précision qui est toujours sympathique, ainsi que celui du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé qu'il obtiendra de nouveau doublement en 2017 pour Edmond, l'équivalent théâtral en termes de puissance et de succès du Happy de Pharrell ou d'Avengers qui auraient eu les critiques de leur côté. Pendant ces quelques années, il a aussi eu le temps d'être dans moult films et séries télé, parmi lesquelles Versailles, Kaboul Kitchen ou encore Urgence, sous le nom de Michel Timbaud, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. L'année dernière, notre invité a trouvé le temps d'adapter Edmond au ciné, d'y jouer Fedo, de le réaliser. Et du coup, cette année, Pépouzin, il a écrit un roman de 650 pages. Tranquille.
C'est quoi cette frénésie, Alexis?
Mais c'est pas... je sais pas.
Ah si, quand on cumule tout ça, quand on fait un petit bilan, comme vient de le faire Charline, c'est impressionnant.
Quoi. Ouais, mais j'aime bien créer, quoi. J'aime bien continuer. Et puis, il se trouve qu'en fait, c'est surtout que les spectacles, la grosse particularité, c'est qu'ils ont une longévité un peu inattendue. Mais en réalité, s'ils n'avaient pas cette longévité, je ferais un spectacle tous les 2-3 ans et ce serait pas fou, quoi. Mm-hmm. Mais ils l'ont, donc ça continue de jouer. Donc forcément, quand les spectacles sont toujours à l'affiche, on se dit, mais il arrête pas, il continue. Mm-hmm. Mais non, c'est juste que que
c'est le même qui continue.
Bah ouais,
c'est une illusion d'optique. Quoi,
bah le bouquin, par exemple, oui, c'est long, mais j'ai mis 3 ans à l'écrire. Ouais. Le dernier spectacle que j'ai monté, c'était Intramuros, c'était en début 2017, donc ouais. Ça commence à faire un petit
deux
moment
ans,
quoi.
Mmh.
Voilà, donc
ah oui, vous faites rien en fait.
Je fais pas grand chose ouais. En fait. Non, je fais des trucs, mais bon voilà. J'ai un amour de la création. J'adore continuer à explorer diverses choses. Je m'ennuie très vite, ouais. Clairement. Et pourtant je m'inflige des vacances, j'allais dire. Je m'oblige à partir en vacances pour ne pas me faire un deuxième burn-out avant 40 ans. Et en gros.
Un deuxième.
Oui. Moi, j'ai eu mon burn-out il y a 5 ans. J'ai appris à, du coup, prendre un peu le temps de temps en temps, quoi. Et c'est quand je suis en vacances que j'écris le mieux. Parce que du coup, je m'ennuie, et quand je m'ennuie, l'envie d'écrire revient, l'envie de créer revient. Donc c'est
mais
un
mais du coup, c'est plus des vacances.
Bah non, je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ferai un deuxième burn-out.
Vous ne vous ennuyez pas pour l'instant là.
Là, je m'éclate.
Bon, très bien. Alors Alexis Michalik, on va continuer avec l'exploration de votre pop list. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, paru entre 1844 et 1846 dans le journal Des Débats. Et là, Alexis, vous parlez à mon cœur, puisque c'est aussi un des romans que j'aime le plus au monde. Et Charline, je vous en supplie, ne me dites surtout pas que vous pensiez qu'il s'agissait d'un cigare.
Ah bon, mais moi je pensais que c'était une pub pour des cigares, ce qui est formellement interdit, puisque fumais-tu. Edmond Dantès ne fume pas, mais il est quand même dénoncé comme bonapartiste, puis enfermé au château d'If, et durant 14 ans, il attend sa délivrance et mûrit sa vengeance. J'espère au moins qu'il avait une vapoteuse.
Alexis, nous feriez-vous le plaisir de nous lire quelques lignes de Monte Cristo, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. Une, dirent les fossoyeurs. Deux, trois. En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds. La mer et le cimetière du château d'If.
La fameuse scène où donc Dantès s'est balancé à l'eau alors qu'il s'est fait passer pour le cadavre.
Absolument. Et j'y étais au château d'If cet été, figurez-vous.
Et alors ?
Eh ben, c'était très sympa. Je suis allé faire un petit tour. J'ai passé mon permis bateau. Voilà, ça n'a aucun intérêt cette information. Et je suis allé faire un petit tour en bateau pour le tester. J'ai fait le tour des îles du Frioul et du château d'If. C'est super sympa.
Et vous avez retrouvé le décor
qu'il
est décrit ?
Je me suis dit, dis donc, ça fait une sacrée trotte pour nager, pour arriver à rejoindre la côte. Bon courage à Dantès quand même.
Mais est-ce qu'au fond, Edmond Dantès a vraiment été enfermé là-bas ou pas?
Est-ce
que l'aiguille creuse d'être taille?
Vraiment, en vrai, c'est une bonne question. Ouais. Je crois que c'est inspiré par quelqu'un qui s'appelle Charles Picot, Edmond Dantès, et qui a vraiment existé, mais qui n'était pas du tout au château d'If, mais qui a eu cette vengeance incroyable où il est devenu riche et il s'est vengé de tous. Mais bon, il a mal fini, on l'a attrapé, puis il a été exécuté.
Le Comte de Monte Cristo, adapté avec des bonheurs divers, à la télé, à la radio, au cinéma, en BD, en comédie musicale, en chanson, même en jeu vidéo. On est donc d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un monstre de la pop culture.
Évidemment. S'il y a un roman pop, je dirais que c'est Le Comte de Monte Cristo.
Vous êtes donc plus Alexandre Dumas que Christine Angot ?
Alors, j'aime beaucoup Christine Angot, évidemment. Mais Alexandre Dumas, c'est un peu mon... je crois que c'est l'écrivain, l'un des écrivains préférés de ma mère, qui lisait énormément d'Alexandre Dumas, qui est anglaise. Et elle m'a fait découvrir. Et quand j'étais ado, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, entre autres. Mais celui-là, c'est vraiment le roman d'aventure. Donc, je suis tombé amoureux de cet auteur.
Moi, ma mère lisait Christine Angot, mais ma maman, elle est morte.
Oh.
Alexis Michalik, pour le film, vous choisissez West Side Story, réalisé par Jérôme Robbins et Robert Wise en 1961. Charline, ne s'agit-il pas là d'une adaptation très libre du Roméo et Juliette de Shakespeare, même si, oui, le Roméo et Juliette, c'est aussi un cigare.
Et c'est pour ça que Roméo et Juliette se tuent. Dans West Side Story, les Jets, le clan de Tony et les Sharks, celui de Maria, s'affrontent, comme les Montaigu et les Capulet, mais eux au moins, ils le font en musique.
He is one of them. I love Tony.
Somebody stop him!
Maria!
Maria, Maria, Maria.
Take you away when nothing can get to us.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
Go.
West Side Story, le choix de Alexis Michalik, notre invité aujourd'hui, son choix cinéma, 51e sur les 100 meilleurs films américains de tous les temps, selon l'American Film Institute, ça c'était en 98.
Mais premier dans mon cœur.
Premier dans votre cœur, à vous.
Absolument, c'est merveilleux, West Side Story. Non, mais c'est un film superbe. Je crois que c'est le premier film qui a eu 10 Oscars, un truc comme ça. Et moi, je suis un passionné de comédie musicale. Ouais. Hein, j'adore ça et j'espère que je vais en faire un jour. Et voilà. Et c'est Roméo et Juliette. Donc c'est pas n'importe quelle histoire de base. Et puis
Roméo
les chorégraphies.
Juliette, vous aviez vous-même adapté au théâtre.
Absolument.
En 2010.
Et joué même dans une scène d'Irina Brooke pour mon premier spectacle à 18 ans. Et c'était, tout est parfait, quoi. Il y a tout, la musique de Bernstein. Incroyable. Et quand on le regarde aujourd'hui, vraiment, la façon de filmer, les chorégraphies, ouais. C'est extrêmement moderne. Ça se tient toujours. D'ailleurs, Spielberg vient de faire un remake de West Side Story. J'ai très, très peur d'aller voir ce film. Mais bon, en tout cas, à l'époque, c'est brillant, quoi. Je crois que c'est 61, je crois, ça.
Oui, 61.
Ouais. Non, c'est 61. Je le regarde encore aujourd'hui. Mmh. Je chante les chansons. Enfin bon, c'est merveilleux. C'est mon film culte.
Alexis Michalik, pour la série, vous avez choisi 24 heures chrono, créé par Joël Surnaud et Robert Cochrane. C'est diffusé entre 2002 et 2011 sur Canal+. Charline, 24 heures chrono, c'est donc le temps qu'il faut pour se faire livrer à domicile une boîte de cigares, Monte Cristo ou Roméo et Juliette, le saviez-vous-t-il?
Alors, ce qui ne sert strictement à rien, puisque Jack Bauer n'a pas le temps de fumer, ni même de manger, d'aller prendre un bain ou de faire ses besoins. Il est sur le qui-vive, puisqu'à chaque saison, il n'a que 24 heures pour sauver le monde.
À ce moment précis, des terroristes menacent d'assassiner un candidat à la présidence. Ma femme et ma fille ont été enlevées. Et il semblerait que des personnes avec lesquelles je travaille soient impliquées dans ces deux affaires. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Et la journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
Alors Alexis, je pourrais bien sûr vous mettre au défi de nous expliquer votre choix en 24 secondes chrono, mais le temps de formuler ma question, et les voilà déjà écoulés. Donc prenez votre temps.
Eh ben non, 24 heures chrono, pour moi c'est la première série où je me suis dit, ça y est, la télé dépasse le cinéma. Ça y est, on peut faire des choses en télé qui sont plus fortes qu'au cinéma parce que on peut jouer avec une temporalité que ne peut pas utiliser le cinéma. Bon, en réalité, ça durait, je crois, 16 heures parce qu'il y avait 20 minutes de pub sur l'heure, donc ça c'est 40, des épisodes de 40 minutes. Mais ce côté temps réel, c'était une bombe. Et à l'époque, je me souviens, ça a été diffusé sur Canal d'ailleurs, et j'avais des potes qui regardaient ça le samedi soir, et le samedi soir, je disais mais on sort le samedi soir, ils disaient non, je peux pas sortir de chez moi. Et je me souviens qu'on a vu les marathons de 24 heures qui étaient diffusés en entier et qu'on s'est dit mais il se passe quelque chose d'incroyable à la télé, et c'était le début du boom des séries, c'est ce qui a initié toutes les autres, Lost, toutes les séries cultes d'il y a 15 ans, ça vient de 24 heures vraiment. Et puis Jack Bauer, tout le monde était fan de Jack Bauer, c'était la première fois qu'il y avait un président noir américain à l'écran, et le fait que Barack Obama soit devenu président, je me demande si c'est pas un peu lié à ça, parce que c'est quand même diffusé par la Fox, rappelons-le, donc qui est quand même un média bien républicain,
conservateur,
bien sûr. et puis tout le monde avait, moi je me souviens qu'à l'époque tout le monde avait la sonnerie de CTU sur son téléphone portable. Tout le monde adorait, c'était cultissime cette série, quoi.
Et c'est une des premières séries où on avait peur pour les héros, parce qu'on se rendait compte rapidement que n'importe qui pouvait mourir.
Tout le monde pouvait mourir et tout le monde pouvait être un traître, c'était génial. Les trois premières saisons, après c'est parti un peu en vrille, mais en tout cas les trois premières saisons elles sont incroyables.
Bon, et bien écoutez, j'ai pratiquement toute ma pop liste. Non, il me manque une chanson culte, et cette chanson c'est celle-ci. Yes, I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my My Way, version Frank Sinatra, version américaine et non pas l'inverse, de Comme d'habitude, une chanson écrite par Claude François et Jacques Revaux, sortie en 69, soit 9 ans avant l'applique de salle de bain fatale
qui brisa ce destin. Absolument.
Vous préférez la VO ou la VF, vous ?
Ah, moi, je préfère la VO, j'avoue. Hein. Et pourtant, j'ai un petit faible pour Claude François, mais Sinatra, mais ouais, c'est merveilleux. C'est pas, je vous avoue que c'est pas le plus pop des sons, hein, mais c'est le plus culte, clairement, pour moi. Moi, je suis très, très fan de Sinatra. De toute façon, j'ai un vrai problème, c'est que tous les chanteurs que j'aime sont morts.
Hein, j'aime Donc, vous aimez Claude François ?
J'aime beaucoup Claude François. Alors, non, c'est pas automatique. C'est pas parce qu'ils sont morts que je les aime, mais il se trouve que je n'aime que des morts. Mais Sinatra, non, c'est Frankie, c'est l'Amérique, c'est génial. C'est la voix qui chante.
C'est galère pour les concerts quand même.
Ouais, bah, j'aurais tellement aimé assister à un de ces concerts. C'était merveilleux.
Hologramme. Alors je résume Le Comte de Monte Cristo, West Side Story, 24 heures chrono et My Way. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
He is one of them.
Des terroristes menacent d'assassiner un candidat à la présidence.
I love Tony.
Somebody stop him!
Maria!
Ma femme et ma fille ont été enlevées.
Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle.
Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Et la journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
It was my way.
L'alarme à l'œil.
Là, ce qui trotte dans la tête d'Alexis Michalik.
C'est exactement ça. Mais tous les jours, je me mets ce petit mix pour me mettre dans l'émotion. Non. Bah, je me rends compte vraiment en écoutant ça que c'est pas très Jones tout ça. Je suis quand même vraiment accessoire. Ouais, on s'en fout, c'est vrai. Mais de toute façon, je suis un homme du passé. Hein. J'aime l'histoire.
Vous savez quel âge j'ai ?
24.
Voilà,
je
vous inversez. Alors, pas de Claude François hein, dans ce pop-up du jour, donc, mais à la place, et vous ne perdez pas au change, ça.
Yeah.
France Inter. Antoine Decaune.
Et Charline. Et si d'ici, allez, ouais, ouais, on dira ce qu'on voudra, mais ça dégage bien les sinus.
Je
et nous sommes
en
compagnie d'Alexis Michalik pour parler de loin, son premier roman. Enfin, quand je dis parler de loin, on peut se rapprocher.
Oui, on est quand même proche.
Oui, l'humour est toujours au rendez-vous ici. Alors, Loin, c'est un roman fleuve qui s'écoule sur des dizaines d'années à travers l'Europe. Il est question de recherche, mais pas de temps perdu. C'est un livre qui vous emmène à l'aventure, qui ouvre grand portes et fenêtres pour vous faire respirer l'air du large. Le narrateur tombe sur une carte postale signée de son père, qui a disparu purement et simplement 20 ans plus tôt, et accompagné de son meilleur ami et de sa petite sœur, il part à sa recherche. Vous aviez conscience, en attaquant ce livre, de l'étendue du chantier qui s'ouvrait devant vous?
J'en avais conscience, et c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à m'attaquer vraiment à ce livre. J'avais écrit les premières pages il y a 10 ans, comme ça, le début du prologue, puisqu'au début il s'adresse au lecteur, ouais, en parlant un peu de
qu'est-ce
que c'est le voyage.
Pourquoi d'ailleurs s'adresse-t-il au lecteur, comme au théâtre vous adressez,
ouais, comme dans mes pièces, ouais. J'ai toujours un petit prologue de début où je dis, bon bah, de quoi on va parler en fait? Et là on va parler du voyage, on va parler de l'identité, on va parler de d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est là. Et puis j'avais écrit ce prologue et tous les ans j'y revenais, je relis. Je me dis, bah, c'est pas mal quand même, il faudrait que je continue. Mmh. Puis un jour, voilà, j'ai envoyé un éditeur en disant, bon, bah, si jamais ça vous intéresse, j'écrirai le bouquin, et sinon, je ferai autre chose. Ouais. Quoi. Et puis, bah, ça l'a intéressé, c'était Albin Michel, Gérard de Cortons, qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, bah, maintenant, il faut écrire la suite. Je lui dis, bon, alors, je te préviens, ça va être un peu long. Et puis, voilà, tous les 2-3 mois, il m'a appelé en me disant, alors, t'as écrit? Je disais non. Il me disait, bon, bah, on va déjeuner ensemble. Et puis, un jour, 3 ans plus tard, j'ai fini par mettre le point final, et puis, le voilà dans les bacs.
Alexis Michalik, après 4 pièces de théâtre et un film, attaquer un roman, il vous a rien fait le roman. Se frotter au roman, c'est essayer une autre forme de narration?
Oui, absolument, et une forme de narration bien plus exigeante que j'avais imaginé, mm-hmm. Parce que bah, au théâtre, on n'est pas tout seul, on a les acteurs qui vont dire le texte, on a des lumières, on a de la musique, on a tout ça, donc même si le texte est médiocre, bon, bah, y a encore des choses qui peuvent le rattraper. Mm-hmm. Au roman, si le texte est médiocre, bah non, c'est fini, hein, le roman est médiocre. Donc du coup, c'est beaucoup plus exigeant, à chaque fois qu'une phrase ne va pas, il faut y revenir, il faut la réécrire, etc., etc. Et quand en plus, bah, je savais que ça allait être long et que le chemin serait long, mais pas fastidieux, hein, ouais. Pas ennuyeux, mais je savais que juste techniquement j'allais devoir passer pas mal de temps devant mon ordinateur, et ça a été le cas. Mais c'est génial quand on termine.
Vous le disiez, le roman s'ouvre par un prologue dans lequel on peut lire, alors dans la bouche du narrateur, à ceux qui espèrent un récit construit à la fin de ce prologue décousu, poser ce livre, partant en Nouvelle-Calédonie ou en Bretagne, car je mettrai un point d'honneur à le rendre aussi chaotique qu'a été ma vie. Est-ce que cette profession de foi n'est pas un peu risquée en entrée de roman?
Si, bien sûr, mais d'ailleurs c'est une fausse piste, parce qu'en réalité le roman il est très construit, mais c'est pas moi qui parle, c'est le narrateur, donc c'est le personnage, donc on se rend compte, bien sûr. Moi mon but c'est de surprendre le lecteur, et comme au théâtre d'ailleurs, mon but c'est que au bout de 10 minutes le public ne se dise pas, bon bah je sais comment ça va se terminer, maintenant j'attends les blagues et puis je rentre chez moi. Non, ce qui est intéressant c'est justement de l'emmener là où il n'attend pas qu'il va être emmené. Et dans ce livre, ces personnages partent au début pas très loin, ils partent en Autriche en se disant on est revenu dans une semaine, et c'est comment est-ce que cette mécanique va se mettre en place pour les mener petit à petit, ouais, de plus en plus loin, et évidemment pas que géographiquement, dans l'histoire, dans la découverte de leurs origines à eux, dans un voyage initiatique, quoi.
Alexis, vous dites que vous avez une connaissance intuitive du scénario, que vous arrivez toujours à deviner la fin. Est-ce que vous avez travaillé avec un plan très précis? Vous connaissiez la fin ou vous êtes là aussi laissé porter par l'écriture?
Ouais, je connaissais la fin. Je pense toujours à la fin en premier, en général, quand j'attaque quelque chose. Et après, je sais qu'elle est là. Et même j'avais écrit les dernières pages. Donc je me disais, bon voilà, le but c'est d'arriver au point de jonction de ces dernières pages. Mais je sais aussi que le voyage sera long. Donc c'était chapitre par chapitre. Bon, je sais qu'on avance. Là, ça y est, on a quitté la Turquie. Donc on peut continuer avancer, on a quitté l'Autriche, ça y est, on peut continuer à avancer. Donc j'ai vraiment vécu ce voyage avec mon ordi et tout seul, quoi.
C'est une réflexion sur le voyage et notamment sur le fait que partout où l'on va, on y est aussi. Ce qui fait qu'on ne part jamais seul, hein, même si on n'a qu'un seul billet à payer.
On en revient à la peur de s'ennuyer, encore une fois, avec les péripéties que vous retracez. Le livre est autant un road trip qu'un roman familial, une quête initiatique. De quel côté du récit votre cœur balance?
De quel côté du récit mon cœur balance? Ben pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un seul type de récit? Moi, je pense qu'au contraire, à l'ère d'aujourd'hui, on est habitué à suivre beaucoup de récits en même temps, de la même manière qu'on est habitué à chercher une information, non pas dans le dictionnaire, mais sur Wikipédia, avec plein de fenêtres qui s'ouvrent, eh ben notre cerveau, il est apte à suivre plein de choses différentes en même temps, plusieurs séries, plusieurs bouquins, plusieurs musiques, plusieurs. Et donc moi, mon but quand je fais une pièce ou quand j'écris un roman, c'est d'avoir cette manière un peu avec des poupées gigognes d'apper le lecteur pour qu'il suive plusieurs histoires en même temps et même plusieurs thèmes en même temps. Parce que c'est comme ça qu'il est stimulé et qu'il veut continuer à être à lire, quoi.
Et si je vous dis que vous êtes aussi à la croisée de plusieurs genres, parce qu'il s'agit autant d'une aventure dans le vaste monde qu'une aventure intérieure.
Tout à fait, absolument. Ça et va. J'adore ça. Bah oui, je suis très content. Moi, c'est chouette d'être multiple. Non?
Oui.
Voilà.
Mais c'est d'ailleurs à vous répondre. Hein.
Mais d'ailleurs, oui, c'est ce qui...
vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Oui. À l'intérieur
non,
de...
je suis pas tout seul.
Mais c'est ce qu'ils vont découvrir parce qu'ils pensent être des Bretons moyens. Mm-hmm. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'aventure, comme ils partent à la recherche de leurs origines, ils vont se rendre compte qu'ils ont bien plus d'origine que ça. Et c'est ça qui va faire leur richesse.
Vous, en tant que lecteur, qu'on sait désormais fan de Dumas, qu'est-ce que vous attendez d'un roman ?
J'attends qu'il me happe, j'attends qu'il me prenne, en fait. Moi, quand je commence un roman, j'attends qu'il aille là où je ne pense pas qu'il va aller. Et quand c'est le cas, j'en suis ravi. Voilà. Qui me bouscule, qui me fasse me questionner, m'interroger, quel que soit le roman d'ailleurs, ou quel que soit l'essai, j'attends que quand je commence à lire ça, je me dis pas, bon bah voilà, c'est attendu, je sais où je vais, ok c'est joli, mais ça va pas me surprendre, quoi.
Vous avez vous-même des origines multiples, et cette quête généalogique à travers différents pays, quand on est d'ascendance anglo-irlando-australienne et scandinavo-polonaise, comme c'est votre cas, est-ce que c'est une inspiration évidente?
Oui, en tout cas, l'idée de ces personnages qui se découvrent de plusieurs origines, elle vient évidemment de moi, mais après c'est pas du tout les mêmes origines, c'est autre chose.
Non, ce n'est pas votre histoire.
Je parle pas de moi, quoi. C'est pas mon histoire. Enfin, on parle un peu de soi toujours, mais pas,
j'espère
pas de mon
histoire. Cette ascendance.
Non.
Enfin, voilà. Ceci étant dit, tous les endroits que visitent vos héros dans le roman, c'est les endroits dans lesquels vous vous êtes rendu.
J'aimerais beaucoup vous dire oui, mais
vous allez nous dire non.
Mais je vais devoir vous dire non. Justement, le challenge, c'était d'arriver. Il y en a évidemment que j'ai visité et d'autres que je connais pas du tout. Et le challenge, c'était que chacun de ces pays, on puisse pas savoir si j'y étais ou si j'y étais pas. Mais j'aimerais bien les visiter. Et j'aimerais bien même qu'un jour, quelqu'un, en lisant le roman, dise, et la folie de dire, eh ben, je vais refaire ce voyage. Et ce serait merveilleux. Comme ça, je peux rester tranquille chez moi, il m'enverrait juste les photos.
Prochaines vacances.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit une époque où l'on a perdu le goût de l'aventure, où l'on vit par procuration ?
Clairement, évidemment. Je veux dire, on a plus des navires qui ne risquent pas de rentrer au port. À un moment, on risque pas de mourir dévoré par les loups. Oui, l'aventure, elle est quand même restreinte aujourd'hui dans notre monde civilisé français, bien sûr. Mais quand on sort de sa zone de confort, et c'est là qu'elle finit par vous prendre, en fait. L'aventure, on peut la rechercher. Il suffit de sortir des limites et puis d'avancer tout droit d'être un peu curieux et de continuer à chercher, à poser des questions. Et puis un jour, on se retrouve et on ne sait plus où on est. Et ça y est, c'est l'aventure qui commence.
Et est-ce que vous avez découvert avec l'écriture romanesque, une nouvelle forme d'aventure ?
Oui, après, c'est une aventure un peu maîtrisée quand même. Hein, parce que on risque pas grand-chose à part une petite douleur au poignet quand on a écrit.
Tendinite.
Oui, c'est ça. Quoi. Non, en vrai, c'est une aventure maîtrisée.
Alors vous qui êtes aguerri à l'écriture des dialogues pour le théâtre, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de frustration en écrivant ceux du roman ?
En tout cas, il y avait un plaisir quand j'avais des passages dialogués, où là, évidemment, c'était super agréable, ça allait très vite, et même je me retenais au bout d'un moment, je me disais, bon allez, ça fait 3 pages de dialogue, là, il faut que je raconte un peu autre chose.
4 pages qui parlent.
Bah ouais, c'était le challenge. Donc évidemment que du coup, le roman est très cinématographique, hein, puisque d'autant que c'était une série dans ma tête à la base. Donc, mais c'était beaucoup plus dur les passages non dialogués, où là, bah il faut décrire sans que ce soit fastidieux, il faut trouver un... Moi, mon maître en la matière, c'est Gary, quoi. Romain Gary. Chaque phrase est un petit bonbon, quoi. Chaque phrase est drôle, spirituelle, intelligente, et pourtant il raconte des histoires passionnantes, mais avec un style fabuleux, quoi.
Ouais, il souffrait de diabète, hein, vous le savez.
Oui, il avait des défauts.
Ouais. Ça s'appelle Loin d'Alexis Michalik, c'est son premier roman, c'est un roman tout à fait étonnant, un vrai roman d'aventure, un page-turner, comme disent les anglo-saxons. Ça veut dire quoi, un page-turner, Charlie ?
Bah, un livre qui donne envie de tourner les pages, ce qui est en même temps un peu la définition.
D'un livre réussi. Très bien. Oui. Vous savez faire plein de choses, bien sûr, Alexis, mais est-ce que vous savez faire ça ?
Non, alors j'admire votre son. Alors, je vais l'essayer. C'est petit.
Pas mal, c'est
plus
petit.
Mat.
C'est un pop de débutant.
Merci, c'est genre.
Très bien. C'est pour lancer les pop news.
Une bande de potes, leur galère et un dilemme, partir ou rester, tel est le pitch de Brassic, série 100% brite qui a tout pour nous plaire. L'histoire en 6 épisodes de Vinny et Dylan, amis d'enfance, cul et chemise quand il s'agit d'embrouilles. Mais Erin, la petite amie de Dylan, menace de quitter la ville avec leur fils Tyler. Dylan se retrouve à devoir prendre une terrible décision, partir avec eux ou rester avec la bande de potes. Courte bande annonce, et alors accrochez-vous, qui dit nord de l'Angleterre dit vrai accent anglais. This isn't how normal people live. You want to buy some chloroform? Are you pissed off? No. Why is there a police officer tied to a chair?
All right, we've had to accidentally kidnap him a little bit. How we go? I can't trust
myself. Je résume, chloroforme, flic attaché à une chaise, kidnapping plus ou moins accidentel et rythme effréné. C'est dans Brassic et ce sera dispo à partir du 16 septembre sur Canal+.
Coup d'envoi ce vendredi du 12e Festival européen du film fantastique de Strasbourg. L'invité d'honneur est Robert Rodriguez, qui viendra présenter son film Red Eleven, une histoire sur fond de recherche médicale et de cobayes humains qui acceptent de jouer les rats de laboratoire moyennant paiement, et donnera une masterclass en marge de la compétition des multiples festivités étranges à signaler, telles qu'une zombie walk, une projection des oiseaux d'Hitchcock au musée zoologique de Strasbourg ou encore une projection secrète. Les festivaliers embarquent dans un bus dont personne ne connaît la destination, ni le film qui sera projeté. Les années précédentes, les volontaires ont eu droit aux Dents de la Mer, aux bains municipaux, Christine en drive-in ou l'exorciste dans une église. Le 12e Festival européen du film fantastique de Strasbourg, c'est du 13 au 22 septembre.
Une tournée mastodonte, une date de folie en juin à Paris avec la tournée conjointe Green Day, Weezer et Fall Out Boy, nom de l'événement Hella Mega Tour, une appellation qui n'est pas volée. Et pour annoncer ça comme il se doit, chacun des groupes a sorti un nouveau titre. Pour Green Day, ce sera Father of All Motherfuckers. Pour Fall Out Boy, ce sera Dear Future Self. Et enfin pour Weezer, The End of the Game. Ça vous donne une vague idée de l'ambiance. Le concert Hella Mega Tour, ce sera le 13 juin à l'Accor Hotel Arena. J'y arriverai jamais.
France Inter. Popopa. Antoine Decaune.
C'est moi.
Le farfadet? Je ne l'ai pas.
Le farfadet, exactement. Ouais. Merci, Charline. Charline, crampotez-vous.
Je me crampote à vous, Antoine, vraiment.
Votre faux œil. Dans la suite de Popopop, on va parler de la première série d'horreur française de Netflix. Mais avant de se faire peur, on se fait plaisir avec Marvin Gaye, Ain't Nothing Like the Real Thing.
Picture.
Marvin Gaye et Tammy Terrell, Ain't Nothing Like the Real Thing. Il n'y a rien comme le vrai truc, hein, pour traduire ça comme ça. C'était en 68.
Mais faut pas, du coup.
Sur l'album You're All I Need, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes toujours en compagnie d'Alexis Michalik qui vient de nous rejoindre, le réalisateur de Marianne, Samuel Bodin, et la comédienne Victoire Dubois. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ah, vous m'avez fait peur. Marianne, c'est la première série d'horreur française sur Netflix, après Marseille bien sûr, et ça fout les chocottes, comme disent les millennials. D'où vous vient cette appétence pour ce genre à tous les deux?
Moi, ça remonte à loin. J'avoue que quand j'étais petite, j'avais un grand frère qui m'a montré Braindead.
Quand vous aviez quel âge?
Je sais pas. Non, mon premier film chelou, c'était Twin Peaks. Oui. Et j'avais 7 ans, ouais, donc un peu bizarre.
Et vous?
Moi, je crois que j'adore ça depuis super longtemps. Je sais pas quand. Ce que j'aime, c'est que c'est un peu relié à. Ça nous ramène en enfance à chaque fois, en fait. C'est Stephen King qui dit que quand on marche la nuit dans une rue et qu'au loin on voit un chien qui se met à grogner, qu'on entend grogner, on a tous 11 ans.
Bah évidemment.
Et bah, je crois que c'est ça.
Surtout si le chien n'est pas attaché.
Oui, ouais. Et surtout s'il court.
Là, on court très très vite, oui. Alexis, ça vous fait peur, vous, les films d'horreur?
Non, rien ne me fait peur. bien sûr que ça me fait peur comme tout le monde, et oui.
Ouais, oui.
Alors j'ai poussé mon premier cri d'effroi après 1 minute 30 de visionnage du premier épisode. Est-ce que c'était le timing escompté?
Ouais, c'est pas mal comme timing.
Ah non, mais c'est vraiment, avec jeté de casque, tourner, pause.
J'en témoigne.
Vous vous moquez pas, c'est pas non, très sympa, c'est pas très charitable.
Je moque pas, je constate. Non, donc c'est, oui, c'était le timing escompté.
Oh bah c'est même plus vite qu'espéré, je vous remercie.
Bah oui, non,
c'est
mais cool. La scène d'ouverture est quand même...
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, le bridge sur l'évier.
Oui, ouais, d'accord, okay. Elle est physique.
Allez, je baisse la lumière du studio pour nous mettre dans l'ambiance de la bande-annonce. Emma, vous incarnez Victoire, une jeune romancière à grosse personnalité qui décide de faire une pause d'écriture. Elle découvre que le monstre qu'elle a créé dans sa série de romans existe aussi dans le monde réel. Cette sorcière désincarnée, nommée Marianne, la ramène dans la ville de son enfance et la pousse à reprendre son projet en la terrorisant.
Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance.
Quelle chose?
Marianne.
C'est une sorcière.
Privée de corps et l'air, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle.
Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne?
Je sais pas.
Alors évidemment, c'est pas Emma qui incarne Victoire, c'est Victoire qui incarne Emma. Vous pouvez dire à quel point je suis troublé. Hein.
Le personnage de l'écrivain dans le cinéma qui fait peur est une figure récurrente de Misery à Sinister en passant par Fenêtre secrète où il y a beaucoup de Stephen King. Comment est-ce qu'on s'y prend pour renouveler la dite figure de l'auteur?
Je sais pas si on essaye de la renouveler. En tout cas, on essaye de la rendre honnête avec la manière dont on va l'amener, de la manière dont elle va affronter tout ça. Mm-hmm. Donc c'était pas une volonté d'être nouveau ou d'être renouveau, mais au contraire de prendre des clés et des codes qu'on connaît et de voir comment nous on allait pouvoir les utiliser et les faire avancer.
Marianne, c'est en ligne à partir de vendredi sur Netflix. Mettre une série d'horreur en ligne à vendredi 13, est-ce que c'est un signal fort?
Non, mais ça c'est intriguant. Je sais pas si c'est un signal fort, mais j'espère que ça va donner envie de voir la série, quoi.
Superstition.
Alexis Michalik.
C'est vrai que j'ai du mal à passer sous les échelles et ce genre de trucs. Mais...
Alexis Michalik, la superstition est indissociable du théâtre. Ne portez pas de verre, j'imagine.
Absolument.
Vous avez d'autres petits rituels?
Il y en a quelques-uns, oui, bien sûr. Vous voulez qu'on les donne tous? Non, c'est un peu intime.
Il n'y a pas l'histoire de lapin aussi?
Je crois, je ne sais pas si c'est au théâtre. On n'a pas le droit de dire corde au théâtre.
Donc non,
on n'a pas
le droit
de dire d'autres trucs.
De dire quoi?
Mais sur les bateaux.
Là, on n'est pas au théâtre, donc on a le droit de le dire. Tout va bien.
Regarder cette série peut vous laisser dans un état de nerf assez spectaculaire. Quand on est devant et derrière la caméra, dans quel état on finit sa journée?
Alors, on finit sa journée crevée. Ouais. Ça c'est sûr, parce qu'il faut aller vite, mais je crois pas que ça soit... Enfin, je crois qu'il n'y a rien de moins effrayant que de tourner quelque chose qui doit faire peur, parce qu'on est là à se concentrer sur la vitesse à laquelle la porte doit s'ouvrir, accrocher à des fils de pêche, à dire un peu plus, va un peu moins vite, va un peu plus vite, et en face de tout le monde, il y a Victoire, ou les gens qui interprètent ces personnages, qui rentrent dans la terreur la plus grande possible, donc de voir ça dans les décors, il n'y a rien de moins effrayant. Par contre, c'est éreintant.
Alors c'est comment... pour vous, mais oui. Victoire qui joue vous, Victoire. Le qui...
Ouais, au cœur si, de l'intrigue. Il y a un petit truc qui travaille quand même au bout d'un moment. Et, mais après, je trouve que le cerveau est plutôt bien foutu. Et moi, je me suis rendu compte que je faisais tout un tas de rêves complètement débiles, mais bien angoissants. Genre, j'arrivais pas à fermer ma valise ou des trucs comme ça.
C'est angoissant. Votre personnage est hanté par ses rêves, poursuivi par ses rêves.
Ouais, ouais.
Et vous, comédienne, quand vous vivez avec ce personnage, aussi près de lui, il y a pas d'effet de porosité?
Si, il y a des petits trucs, mais ça devient... Je sais pas, je pense que je dois avoir un truc qui veut mettre un peu de distance et qui fait des blagues un peu cons, quoi. Mm-hmm. Je me retrouve avec des rêves hyper bêtes.
Mais il n'y a pas eu de malédiction, il n'y a pas eu de mort sur le tournage ou un truc comme ça?
Alexis Michel s'inquiète.
Je sais pas, c'est plus intéressant.
Alexis essaye de vendre le projet, la série. Bien sûr,
non, c'était, si c'est juste fun et qu'on se marre, c'est pas aussi intéressant. Aussi.
C'est déjà ça pourrait être super chiant et tout. Non, c'est un peu angoissant.
C'est vrai.
Si, c'est super angoissant, on a perdu la moitié de l'équipe.
Il y a une fille qui essaye de cacher tout ça,
mais oui, bien sûr.
Vos références en matière de fiction, des conseillers aux moins de 16 ans, c'était lesquelles?
Alors, on a regardé des films d'horreur ensemble, on s'est fait des projections.
On a traumatisé une bonne partie de l'équipe.
Mais on a regardé des classiques, on s'est refait Shining et L'Exorciste en boucle.
Ouais, qui est assez atroce d'ailleurs, L'Exorciste. Enfin, moi, je ne l'avais pas vue, mais du coup, j'ai découvert. Ouais, elle est bien flippante, cette petite.
Et puis on a regardé des choses un peu plus modernes, on a regardé ce qu'a fabriqué James Wan avec peu de moyens comme Insidious pour voir son côté train fantôme et l'orfèvrerie et l'horlogerie plutôt qu'il met dans toute sa mise en scène. Donc on a observé un petit peu ces deux rythmes et ces deux genres de tensions. Et là-dedans on s'est dit qu'on allait créer la nôtre, quoi.
Samuel, vous réalisez, mais vous n'avez jamais fait d'école de cinéma, pas plus que vous Alexis qui avez fait un long métrage. Absolument. Vous êtes donc tous les deux la preuve vivante qu'on peut vivre sans.
Sans école de cinéma?
Oui.
Oui, je pense, un peu. Hein.
Pour l'instant.
Elle n'est pas renoncée à l'idée d'en faire une?
Non. Mais moi, je viens du théâtre aussi. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Mm-hmm. Et le peu de cachet que je gagnais, je mettais l'argent de côté pour faire des courts-métrages. Mais c'est vrai que j'ai appris en regardant des bonus DVD, quoi.
Mm-hmm. Une dernière question. La Bretagne, c'est le décor idéal pour les films d'horreur? Je dis ça pour les Bretons encore en état de nous écouter en direct. Parce qu'il paraît que passé 18h, l'écoute est brouillée là-bas.
Désolé pour eux,
bien sûr.
Sur le scénario, il y avait marqué que partout dans la série, tout était gris et mouillé. Donc on est allé en Bretagne. Oui.
Donc, vrai, ils ont New Mayen.
Donc la Bretagne. Juste une dernière chose, Victoire, vous avez joué dans Call Me By Your Name avec le magnifique Timothée Chalamet, un habitué de Pop. Ça fait quoi de passer du beau au qui fait peur?
Du beau au qui fait peur, c'est un grand écart que j'aime bien. C'est un peu comme dans la vie, quoi. Mais non, mais c'est un peu
J'aurais adoré une réponse. Oui, puis il est pas si beau non
plus.
Ouais,
c'est vrai que il est moyen.
Bon, ça passe vendredi sur Netflix. Ça s'appelle.
Vous le savez, vous, Marianne.
Marianne. J'ai envie de participer.
Ça s'appelle Marianne. Ça fait très peur.
Non, mais
pour
je
comme moi, c'est terrorisant.
Tous les trucs, je suis à faire. Bon, alors, on approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Et comme chaque semaine, je vais jouer un petit Johnny Montreuil. Alors, j'ai pas trouvé la trappe pour descendre cette année, mais j'ai un ascenseur. Allez, je l'appelle. Là, voilà. On va descendre à la cave. Oh tiens, comme c'est étrange. Il y a un court-circuit. Oh, plus de lumière. Évidemment, ils me font le coup du film d'horreur. Ah. Tiens, l'ascenseur est bloqué. Comme par hasard. Attends, je vais te le débloquer, moi. Ah, tu vois, les portes s'ouvrent. Mais, il y a quelqu'un. Ah, une fée, à contre-jour. À cheval sur un balai. Mais qui êtes-vous?
Aromanov.
Ils ont voulu me virer de chez moi, ces gros bâtards, je suis maudit. J'ai traîné mes lattes à Ripa, oublié ma banlieue chérie. Je me ruine le sang pour ces vautours, paye 1000 euros, tonto dit. Un morfond dans mon arrière-cour, on ne m'appelait plus Johnny. Moi je rêve la nuit, à
mon petit coin paradis. C'était pas beau, il faisait son. Bonjour les rats et les souris. Oh, j'irai la nuit à mon petit coin paradis. Yeah, à ma petite fille, à ma chérie. Oh. Ils appellent ça la ville lumière, mais tout est éteint à minuit. Bonjour les keufs, petits doigts en l'air, les vieilles rondières et leur mépris. Fini les meufs mais régulières, celles qui sont belles qu'on la teufrie. Oh, rincé comme une vieille serpillière, on ne m'appelait plus Johnny. Moi je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait son. Mais y'avait toujours un ami. Oh, j'irai la nuit à mon petit coin de paradis. Yeah, à ma petite fille, à ma chérie. Yeah. Oh, 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 oh. All right. Yeah. Oh, 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 oh. Rock dans leur pauvre club de jazz moisi. Leur salon thé, ambiance au vitriol. Définitivement mon merci. Dans ma rue, personne rigole, personne n'égueule, je me sens oxy. Mais les rats ça résiste comme de la colle. Vous allez voir qui c'est joli. J'ai mis le feu dans tout l'immeuble. Les indiens, mon appartement. Ça swingait enfin ma queue dans leur putain d'arrondissement. Chez moi, en même pas deux temps, trois mouvements. Mais tout avait changé autour de moi. Putain, on n'est jamais content. Alors je rêve la nuit à mon petit coin de paradis. C'était pas beau, il faisait son. Mais ça sentait bon la connerie. Oh, j'irai la nuit à mon petit coin de paradis. Yeah, à ma petite fille, à ma chérie.
Johnny Montreuil, un artiste qui ne figure pas dans la playlist d'Inter, mais qui se console en étant dans celle de Pop Pop Pop. C'était le morceau Johnny Paradis. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Mes amis, merci Victor Dubois, Samuel Bodin, Marianne, votre série qui fait peur. C'est à partir de vendredi sur Netflix. Merci Alexis Michalik.
Merci à vous.
Loin, votre premier roman est édité chez Albin Michel et tout ça est plus que recommandé par Pop Pop Pop. Merci d'ailleurs à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus, à la réalisation, à la technique Maxime Ingrand, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Alexis Alacour et Simon Restat. Nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le comédien Michel Esco et la comédienne Lena Bloom. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos, films qui font peur, mais loin, sur YouTube.
Ah 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 ah, je fais peur.
Oui,
mais loin,
voilà. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop, 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 sur Instagram. Et pardon.